Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. Les dimanches 15 et 22 mars, les Français sont appelés aux urnes pour des élections municipales. On vous en parle évidemment sur RFI. Et dans l'Atelier des médias, j'ai choisi d'inviter le PDG d'une entreprise française spécialisée dans les robots rédacteurs de contenu. Ces robots vont écrire des dizaines de milliers d'articles qui seront publiés sur des sites d'information français chaque soir du scrutin.
Cette notion de robot où on voit une machine de 300 kilos assise sur un bureau de journaliste et qui va pousser les journalistes par la fenêtre, c'est effectivement une dystopie, dans le sens où ça n'existe pas.
Mais avant ça, je vous propose d'écouter un entretien que j'ai réalisé il y a quelques semaines à Paris avec une journaliste suisse. Elle nous raconte comment, en tant que journaliste, elle a fait augmenter la participation aux élections fédérales dans son pays. Bonjour Cécile Dering.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la RTS, la radio-télévision suisse, alors plus spécifiquement dans la partie télévision, c'est ça ?
C'est ça, c'est la télévision publique version francophone.
Voilà. Avec un collègue à vous de l'émission Mise au Point, vous êtes immergé pendant 2 mois dans la petite ville de Moudon, donc c'est dans le canton de Vaud en Suisse, c'est ça ?
C'est ça.
Une quarantaine de kilomètres de Lausanne, c'est ça ?
C'est ça, 25 minutes de Lausanne en voiture, ouais.
Alors votre objectif, c'était de mobiliser les habitants pour les élections fédérales et de les inciter à voter. Comment vous est venue cette idée ?
En fait, en Suisse, tous les 4 ans, on élit notre Parlement. Donc tous les citoyens suisses sont invités à aller déposer un petit bulletin pour des candidats. Chaque année, c'est un peu pareil. La participation, elle est autour de 40%. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que 40% des gens qui vont voter ? Et plutôt que de faire une chose classique, c'est-à-dire d'aller constater, les gens ne votent pas, on s'est dit, on va aller dans une commune et essayer de comprendre pourquoi ces gens-là ne votent pas. Et donc on a choisi une commune pas trop grande, 6180 habitants, c'est une petite ville, un peu dans la campagne, avec des gens de toutes sortes, il y a des étrangers, enfin c'est une ville très mixte. Et puis à partir de là, on a mis en place des choses pour essayer de comprendre pourquoi les gens n'avaient pas voté et comment on pouvait éventuellement les inciter à aller voter.
Très concrètement, vous avez fait des interviews, mais vous avez fait venir des intervenants extérieurs aussi pour essayer de comprendre, des universitaires peut-être ?
Pas des universitaires. Nous, notre but, c'était vraiment de recréer un lien entre citoyens et politiciens. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on entendait de la part des gens qui habitent Moudon, c'est de dire, la politique, c'est tellement loin, c'est à Berne, dans la capitale, ils s'en fichent de nous. Donc on a organisé des événements dans la ville de Moudon, on a fait venir des politiciens, et puis on a invité la population à venir assister à des débats, on a fait un speed dating politique, ça a hyper bien marché. Donc les politiciens assis autour d'une table, des citoyens, on boit un verre et on débat sur toutes sortes de thèmes, politiques forcément. On voulait aussi atteindre les jeunes, donc là on a essayé de faire venir des jeunes candidats, ça a plus ou moins bien marché. On a organisé une soirée fondue pour que ce soit un peu plus convivial, donc autour d'un caquelon avec des candidats et toujours des citoyens, et vraiment recréer le débat entre et le lien entre eux.
Et à chaque fois, cela donnait lieu à des contenus éditoriaux multimédia d'ailleurs. C'était pas seulement la télévision, c'était aussi en radio, etc.
Exactement. Toutes ces expériences, toutes ces actions qu'on a menées, elles étaient filmées. Ça nous faisait du contenu pour le broadcast, parce qu'il y a eu 4 épisodes qui sont passés dans l'émission de Mise au Point. Et puis toutes les semaines, on avait encore notre page Facebook Mise au Point, dans laquelle on faisait des récapitulatifs, donc des petites vidéos. Et puis on a créé encore un groupe Facebook, mais que pour la ville de Moudon, où les gens eux-mêmes, les citoyens, alimentaient. Donc c'était un peu multicanal, comme ça, c'était l'idée de ne pas faire que de la télé pour grand-papa, comme on dit aujourd'hui, mais vraiment d'essayer d'atteindre un large public.
Et ça a été un succès, puisque le taux de participation à Moudon est passé de 36 à 46%. Vous avez fêté ça, j'imagine ?
Oui, c'était très émotionnel, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que l'idée, c'était effectivement de s'installer à Moudon. Donc, dans cette petite ville, on a loué un local commercial. C'est devenu notre QG, mais c'est aussi devenu un peu le café social de Moudon. Donc, les citoyens, la porte était ouverte, les gens sont venus. Des fois, on pouvait même pas travailler parce que on était tout le temps sollicités. Et puis, on a créé des vrais liens. En 6 semaines, vous imaginez, c'est une petite ville, tout le monde nous connaissait. Donc, on a invité les gens le jour de l'élection, c'était le 20 octobre, à venir nous rejoindre. On pensait qu'on serait 20. On était, je pense, pas loin de 100. Et quand on a eu le résultat, ça a été vraiment l'explosion de joie. Ouais.
Alors, quelles sont les conclusions que vous tirez de cette expérience ?
Que ça vaut la peine de s'engager. Alors, je sais que c'est pas donné à toutes les rédactions, mais c'est vrai que quand vous êtes 6 semaines installés dans une ville, les gens commencent à vous connaître, vous font confiance. ils deviennent eux-mêmes des acteurs. C'était ça aussi l'idée, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à atteindre cet objectif qui était d'atteindre 50%, qu'on n'a pas atteint, mais qu'on n'était pas très loin. Et bah oui, c'était aussi toute cette question. Est-ce que c'est pas le rôle des médias, parce que c'est aussi ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est d'être trop loin des citoyens, de venir à eux, qui deviennent des acteurs de nos sujets et qui s'emparent de la chose. Et de ce point de vue-là, on était très contents, parce que je pense que sans les citoyens, on n'y serait pas arrivé. L'objectif, il aurait été, à une semaine en fait des résultats, on était à peine à 20%. Donc vous imaginez, tout d'un coup, il y a une espèce de mobilisation citoyenne qui a fait que on est arrivé au résultat, au 46%.
Et qu'est-ce que vous avez appris, vous, à la fois sur vous en tant que personne et sur vous en tant que journaliste?
Difficile question. Moi, je dirais ce que je retiens, c'est tout d'un coup, mon métier faisait sens. Parce que des fois, on est dans l'actu, on enchaîne les sujets les uns après les autres sans se poser plus de questions. Et là, j'avais l'impression d'avoir servi à quelque chose. C'est-à-dire que il y a vraiment des gens de Moudon qui nous ont dit, grâce à vous, on a pris conscience de l'importance que c'est d'aller voter. Et je me dis que, à ma modeste échelle, j'ai peut-être contribué à raviver un peu la démocratie en Suisse. Donc ça donnait du sens. Et puis, c'est une autre façon de faire. Et moi, j'aime ça. J'aime ça aller... J'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que je fais de la télé. C'est d'aller rencontrer les gens. Mais là, de s'installer, c'était encore autre chose. Et moi, je regrette que d'une chose, c'est de recommencer.
Et quel conseil, justement, donneriez-vous à vos confrères français ou autres journalistes à travers le monde face à cette situation? C'est d'essayer de reproduire la même chose à leur propre niveau?
Pourquoi pas? Après, c'est vrai qu'il faut des moyens. Hein. C'est vrai que là, on était deux journalistes dégagés de la rédaction de Mise au Point pendant 6 semaines. Alors, on a fourni du contenu. Hein. C'était aussi tout bénef pour l'émission. Mais si vous avez les moyens, mais oui, allez vous installer, allez à la rencontre des gens et que les gens viennent à vous et recréer ce lien, bien sûr, ouais. À fond, j'ai envie de dire.
Merci beaucoup Cécile Düring et bon retour en Suisse.
Merci beaucoup à vous.
C'était la journaliste Cécile Düring de la RTS, la télévision publique suisse francophone. On va maintenant s'éloigner un petit peu de l'humain, si j'ose dire, pour parler de robots rédacteurs de contenu. Les robots peuvent parfois, nous allons le voir, venir en soutien aux journalistes. Cela va notamment être le cas en France les 15 et 22 mars pour rédiger les pages de résultats des élections municipales. Bonjour Claude Deloupy.
Bonjour.
Bienvenue dans l'atelier des médias. Vous êtes le PDG et cofondateur de C-Labs. Et j'aimerais d'abord que l'on commence par décrire C-Labs. Si je dis que c'est un robot rédacteur de contenu textuel derrière lequel se trouve une intelligence artificielle, est-ce que j'ai bon ?
Alors déjà, C-Labs, c'est une équipe, hein. C'est pas simplement une machine. Donc on a effectivement une équipe de 26 personnes avec des compétences diverses, des informaticiens, des linguistes, des personnes spécialisées dans la data, des scénaristes, etc. Et nous avons effectivement développé une intelligence artificielle permettant de produire des contenus textuels, donc du texte, de l'information, à partir de données structurées. Cette machine, ces différentes machines permettent de produire différents types de contenus. Ça peut être effectivement, on en reparlera, les résultats des élections, mais ça peut être aussi des annonces immobilières. On a actuellement plus de 600 agences immobilières qui nous utilisent pour produire leurs annonces, parfaitement écrites, donc avec aucune faute et toutes les informations. On travaille pour le tourisme, on travaille pour l'e-commerce, pour la finance, etc.
Vous dites dans vos communiqués que C-Labs est le premier fournisseur de contenu rédigé automatiquement pour les médias français. Vous utilisez l'expression « moteur de rédaction ». Que voulez-vous dire par là ?
Absolument. Souvent, on utilise des termes inappropriés, que je préfère donc du coup ne pas répéter ici, parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Un moteur de rédaction, c'est vraiment un système qui est capable de produire des textes à partir de données, c'est tout. Donc c'est quelque chose, par exemple, vous avez un moteur de recherche, vous lui posez une requête, il vous renvoie des documents qu'il a trouvés sur le web après l'avoir travaillé et analysé. Et là, le moteur de rédaction, c'est un peu pareil, on lui fournit des données, et derrière, il va produire des textes.
Mais rédaction, ce mot, il est important lorsqu'on en parle dans un univers journalistique.
Oui, mais le terme rédaction est effectivement propre à ce que fait la machine, c'est-à-dire qu'elle va vraiment rédiger des textes. C'est quelque chose effectivement qui est important parce que dans un monde journalistique, on a l'habitude évidemment que ce soit des humains qui le fassent, d'ailleurs dans tous les domaines. L'impact ici, c'est qu'on est là pour compléter une information humaine. La machine n'a absolument pas la capacité d'aller faire un travail journalistique. C'est pour ça que je récuse des termes, des termes comme robot journaliste qui sont totalement impropres. Il n'y a absolument aucune fonction journalistique dans ce que fait la machine. Elle va simplement retranscrire une information sous forme de texte. Donc c'est un complément. Vous avez des journalistes qui font un travail journalistique, qui peut être aussi poussé que des interviews, de l'analyse, de l'investigation, ou simplement de la curation, de la vérification, qui est un vrai travail journalistique. La machine ne fait pas ça. La machine va produire des textes à partir de données.
Revenons au début de Scilabs. Scilabs a été lancé en 2005, il y a 15 ans donc. Vous êtes ingénieur en informatique, vous vous êtes associé à l'époque à une chercheuse en linguistique et tout de suite, ensemble, vous vous êtes concentré sur l'enrichissement de l'information. Pourquoi ?
Alors effectivement, nous étions tous les deux chercheurs, elle plutôt en linguistique appliquée à l'informatique et moi plutôt en informatique impliquée à la linguistique. Donc on était très proche de ce monde de l'information et de la manière de le traiter automatiquement. Et en fait, c'est suite à une discussion avec un responsable de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc on était à ce moment-là à Alexandrie, on a visité cette bibliothèque, on a discuté avec ce responsable, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une très grosse quantité d'informations, et que l'accès à cette information, même si on a des moteurs comme Google et autres, n'était pas satisfaisant pour beaucoup d'utilisations. Donc, typiquement, nous avons décidé de travailler sur l'analyse de ces contenus, de cette information, pour arriver à savoir, à regrouper des textes qui parlent de tel sujet, à faire des liens entre des textes via des personnes citées ou via des sujets, etc. Donc, bon, et il se trouve que, par ailleurs, moi j'ai une passion pour les médias depuis que je suis tout petit, en fait. Les médias, ça m'a toujours fait rêver. Et le fait de travailler sur ce matériau, je l'avais déjà fait par le passé dans mes précédentes expériences, et j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose à ce monde. Et à l'époque, c'était plutôt de l'enrichissement, effectivement, de contenu déjà écrit.
Et de quoi vous êtes-vous inspiré en 2005 ? Quelles étaient vos sources d'inspiration pour commencer à travailler sur ce sujet de l'enrichissement de l'information ?
Alors, il y a plusieurs points. Il y a le point purement d'expérience, c'est-à-dire l'un comme l'autre, donc Elena, mon associée et moi-même avions travaillé dans plusieurs entreprises, l'un des constats, c'était que l'informatique dirigeait ce qu'on appelle le traitement des langues, c'est-à-dire c'est les informaticiens qui programmaient et donc c'est eux qui décidaient ce qu'il fallait faire et les linguistes, grosso modo, étaient des exécutants. Et ça ne nous satisfaisait pas parce que quand on travaille sur la langue, on a beau parler et on a beau être informaticien, c'est pas pour ça qu'on sait traiter la langue automatiquement. Cette compétence linguistique est fondamentale dans ce traitement-là. Et puis par ailleurs, il y avait aussi ce côté à l'époque où on se disait c'est pas grave si la machine prend du temps à traiter beaucoup de textes. En fait, les contenus étant de plus en plus importants, on avait besoin de travailler sur cette rapidité. Et donc on a mis tout de suite nos équipes à travailler sur des modèles permettant d'utiliser des connaissances linguistiques et de l'apprentissage et avec une condition de rapidité.
On va faire un petit bond dans le temps, en avant, avec votre premier coup, si je puis dire. C'était il y a pile 5 ans, en mi-mars 2015, avec le journal Le Monde, en France, pour les élections départementales. Il y avait des scrutins dans plus de 30 000 communes françaises, et Scilabs, votre outil, donc, a rédigé, compilé ces résultats, les a éditorialisés, et vous êtes félicité ensuite qu'aucune erreur, aucune faute n'a été faite. Quel était votre pari, là, en 2015 ?
C'était un pari de notre part, effectivement. Il y avait un pari, mais c'était surtout un pari du monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait à l'époque. Et donc, l'équipe du monde, Luc Brunner en particulier, a décidé qu'il fallait y aller, qu'il fallait qu'un média français commence à utiliser ce type de machine qui était déjà utilisée aux États-Unis. Donc ça s'était jamais fait sur les élections, ça s'était jamais fait en France, donc le pari était beaucoup du côté du monde. De notre côté, effectivement, le pari c'était arriver à délivrer en temps réel. Les résultats tombent au ministère de l'Intérieur, nous on les récupère, on les analyse et on produit du texte donc pour toutes les communes en temps réel, c'est-à-dire effectivement plus de 35 000 textes en 4 heures, et sans faute et avec de la variabilité. Il fallait pas que les textes, ce soient des textes à trous, il fallait de la variabilité. Donc le pari était là, et le pari effectivement a été réussi. Personne ne nous a remonté d'erreur sur les textes qu'on a produits.
Et comment aviez-vous travaillé avec les équipes éditoriales? J'imagine que le travail en amont était un peu titanesque quand même. Il fallait établir des règles, des textes prétextes ou des textes à trous qui allaient être remplis par un algorithme.
Oui, alors justement pas des textes à trous, ce sont des textes qui sont effectivement produits à partir de la machine, et ce ne sont pas des textes qu'on remplit. Et effectivement, dans ce cas-là et dans d'autres cas, il y a un travail éditorial qui a été fait avec les équipes du Monde, où le Monde nous a donné sa façon de parler des élections. Pour vous donner un exemple, hein, le Monde va parler d'abstention. Par exemple, je crois que c'est le Parisien qui parle de participation, et l'Express va parler d'abstention si elle est supérieure à 30%. Et c'est plein de choses comme ça qui donnent cette identité du média dont on a besoin de prendre connaissance pour pouvoir produire des textes qui sont en rapport avec ce que veut le média et à sa ligne éditoriale. Donc il y a eu un travail effectivement assez conséquent, pas si énorme que ça, mais il y a eu un travail assez important.
Depuis 5 ans, vous avez accompagné technologiquement plusieurs médias pour des élections. Eh bien là, maintenant, les 15 et 22 mars, se tiennent en France des élections municipales. C-Labs va fournir sa solution à une quinzaine de médias. On peut en citer quelques-uns, France Bleu, Ouest France, Sud-Ouest, Centre Presse, La Nouvelle République ou encore Actu.fr. Est-ce que vous avez un petit peu d'appréhension pour ce dimanche?
On a toujours de l'appréhension. Vous savez, c'est comme les grandes épreuves. On a beau être préparé, on a beau être entraîné, il y a toujours un stress. Et ma foi, le stress est plutôt bien. C'est quelque chose qui nous pousse. Donc oui, il y a une certaine appréhension. Oui, il y a une tension actuellement dans les équipes. Elle est palpable. On la sent. On a prévu des stress tests, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre les équipes dans des conditions où il y a des erreurs. Et donc, il faut réagir vite. Hein. C'est un peu comme vous faites des exercices d'alerte incendie et autres. Voilà, on met tout ça en place. Ce stress, s'il est maîtrisé, c'est un bon stress, en fait. Donc oui, il y a de la tension, mais on est confiant.
Ça ressemblera à quoi dans les bureaux de C-Labs ces deux dimanches qui viennent?
Alors, tout dépend de ce qui va se passer avec le coronavirus, mais habituellement, en fait, on a une grande partie des équipes qui sont sur place dans nos bureaux et qui donc travaillent ensemble avec des pizzas et du coca et voilà, pour pouvoir tenir le choc un peu et la durée. Et on reste sur le pont jusqu'à ce que vraiment ce soit terminé. Donc ça fait à peu près toute la nuit. Il est possible que là, dans les conditions spéciales, chacun reste chez soi et travaille de chez soi, on verra comment ça se passe.
Tout est connecté, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous, physiquement, il n'y a personne de C-Labs qui va être dans chacune des rédactions des médias que je viens de citer.
Non, en l'occurrence, non. On récupère vraiment les données à partir de ce que donne le ministère de l'Intérieur.
Et ce sont vos serveurs qui vont chauffer, en plus de ceux des rédactions, les serveurs de C-Labs, c'est-à-dire que rien n'est implémenté localement dans les médias pour lesquels vous allez proposer votre solution?
Effectivement, c'est chez nous que se font toute la récupération, les calculs, l'analyse et la production des textes, et ensuite on les délivre directement sur les serveurs des clients. Cela dit, même pour les médias, recevoir plusieurs milliers de textes en quelques minutes, ça demande aussi une certaine capacité de serveur.
Et si jamais le site du ministère de l'Intérieur, par exemple, tombe en carafe, eh bien votre système ne pourra pas fonctionner, j'imagine.
Absolument, oui, comme d'ailleurs la plupart des médias. Alors il se trouve qu'on a eu des cas. Là, ce ne sera pas le cas, mais on a eu des cas où certains médias avaient des équipes dans leur zone de, voilà, leur zone d'information, et donc récupéraient eux-mêmes l'information et nous l'envoyaient, ce qui permettait d'aller un petit peu plus vite.
Lorsque vous démarchez un média pour lui proposer votre solution, que lui vendez-vous? Vous parliez de compléments tout à l'heure, l'idée de faire des contenus que les journalistes ne voudraient pas faire. Vous ne pourrez d'ailleurs pas faire parce que ça nécessiterait trop de temps et d'engagement de moyens.
Oui, clairement. Nous, on est là dans un mode de soutien de l'activité des médias. C'est-à-dire que le propre des médias, c'est de délivrer une information utile pour sa cible, pour son lectorat. Donc typiquement, quand on est un média local, on doit parler à son lectorat local, donc on doit parler de chaque commune qui fait partie de son secteur. Et quand on est face à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de communes, on ne peut pas imaginer traiter ça à la main, c'est pas rentable, c'est pas intéressant, et ça rendrait les journalistes fous de devoir écrire ce type de contenu pour toutes les communes. Donc nous, on est là vraiment en soutien. Ça ne concerne pas que les élections, ça peut concerner bien autre chose, mais c'est ça. Le deuxième point, c'est le côté variabilité. C'est-à-dire, effectivement, il existe des systèmes à base de textes à trous qui vont remplir ces textes à trous avec les données. Le problème de l'absence de variabilité, puisqu'il n'y a plus de variabilité, c'est que un lecteur va lire un texte, mais il n'en lira pas deux. Parce que on a besoin, nous, humains, de cette variabilité. Et c'est pas parce que c'est une machine qui l'écrit qu'on est satisfait d'avoir quelque chose qui n'est pas variable. Et bien sûr, il y a l'aspect référencement. Le fait d'avoir des contenus qui parlent de toutes les communes permet d'être référencé dans les moteurs de recherche sur des requêtes ayant trait à cette commune-là.
C'est ce que vous demandent, j'ai l'impression, de plus en plus les médias pour lesquels vous travaillez, vos clients, justement, d'avoir une optimisation des pages créées en référencement, notamment pour Google, on l'imagine, donc ce qu'on appelle le Search Engine Optimization, SEO, afin que bien l'internaute puisse taper le nom de sa commune et résultat, par exemple, dans un moteur de recherche et arrive directement sur la page en question.
Oui, c'est ça. Le référencement est évidemment toujours très présent à l'esprit de nos utilisateurs, quels qu'ils soient, à part certains cas où on produit des rapports qui n'ont pas à être publiés sur le web. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté mission des médias qui est effectivement de donner l'information qu'attendent leurs lecteurs.
Et puis également, j'imagine, le fait que ce soit optimisé pour l'utilisateur et qu'il puisse avoir visuellement quelque chose qui ne soit pas décevant.
Oui, c'est ça. Ouais, il y a d'ailleurs, c'est pour ça que on fournit aussi des infographies en même temps que les textes. Certains médias choisissent de faire leur infographie eux-mêmes, mais sinon nous on fournit aussi ça.
Les articles rédigés par l'algorithme derrière Cylabs sont publiés tout seuls sur les sites des médias que j'ai cités tout à l'heure.
Alors, qu'on vous dit tout seul, ça voulait dire sans
intervention humaine.
Donc les deux sont possibles. Effectivement, quand on va publier 35 000 contenus en 4 heures, on peut pas imaginer une relecture humaine. On ne la fait pas nous-mêmes. On a confiance dans ce que peut faire nos moteurs de rédaction, même si on va vérifier de manière aléatoire un certain nombre de contenus pendant les élections. Donc là, ils ne sont pas relus a priori, mais nous avons des cas où les médias, on leur fournit des textes, des journalistes les relisent, les modifient, les complémentent avec une vision plus journalistique et les publient.
Quelles sont les questions principales que vous avez de la part des médias que vous démarchez lorsque vous venez leur proposer votre solution? C'est quoi la question de base qu'on vous pose?
Tout dépend qui on a en face, en fait. On a les questions qui remontent, c'est effectivement la variabilité. Donc il faut qu'on puisse garantir qu'il y ait une certaine variabilité, c'est évident. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la qualité des contenus? Donc ça fait 9 ans qu'on a cette technologie qui a largement évolué, on a prouvé maintes fois que on était capable de le faire, donc maintenant on arrive avec beaucoup plus de solidité sur ces questions-là. Et puis après, il y a des questions sur la mise à jour, la propriété des contenus. En l'occurrence, nos clients sont propriétaires des contenus qu'on leur délivre, on renonce à tout droit là-dessus. Voilà, grosso modo, c'est les questions principales.
Certains vous demandent-ils ou écrivent-ils dans les pages rédigées par Cylabs à ce qu'il y est écrit que ce contenu a été rédigé par un robot, par exemple, ou généré automatiquement? Peut-être, je ne sais pas quelle est la formule.
La quasi-totalité des médias précise effectivement que les contenus ont été fournis par Cylabs ou faits avec Cylabs. Parfois, il est précisé rédigé de manière automatique, c'est pas toujours le cas. Nous, on conseille à nos clients de le faire. On ne peut pas les obliger, c'est-à-dire c'est leur décision.
Et y a-t-il des journalistes dans votre équipe? Vous disiez tout à l'heure 26 collaborateurs. Pour discuter avec des journalistes, souvent il n'y a pas mieux qu'un journaliste. Et justement, est-ce que vous créez aussi parfois des contenus éditoriaux ou alors est-ce que vos équipes sont juste là pour créer la première mouture qui après va être validée avec vos clients?
On travaille beaucoup avec des journalistes qu'on internalise, mais qui ne sont pas chez nous. C'est-à-dire que
des experts.
On a des experts, absolument. On doit travailler sur un sujet. Nous ne sommes pas journalistes. Nous faisons appel à des journalistes experts du domaine. Mais nous n'avons pas de journalistes en interne.
Pour reprendre le titre d'une dépêche AFP publiée il y a quelques jours, dans laquelle vous interveniez d'ailleurs, le spectre des robots journalistes s'est estompé. Et je lisais une intervention de votre part il y a quelques temps où vous disiez que pour vous, l'expression ou le terme, l'idée de robot journaliste était tout simplement une dystopie. Vous en êtes toujours convaincu ?
Totalement, totalement. C'est une dystopie parce que ça n'existe pas. C'est un concept qui a été créé de toutes pièces en ayant en tête tous les Terminators, les iRobots et autres, c'est-à-dire tous les cauchemars que nous présente la science-fiction depuis un siècle, et vraiment depuis un siècle parce que j'ai étudié la question. Cette notion de robot où on voit une machine de 300 kilos assise sur un bureau de journaliste et qui va pousser les journalistes par la fenêtre, c'est effectivement une dystopie, dans le sens où ça n'existe pas. Donc effectivement, nous, on a lutté par rapport à ça pendant des années. Ce fut une lutte féroce parce que il y a effectivement beaucoup de résistance et beaucoup de fantasmes. Quand on est du domaine de l'intelligence artificielle, on sait que c'est un terme en soi qui est absurde également, c'est-à-dire la machine n'a aucune intelligence. C'est quelque chose qui a été fait par le marketing et qu'on nous vend actuellement et tout le monde, oui, mais j'ai de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas vrai. C'est une machine, on lui montre 1 million de photos de chats et qui va reconnaître un chat. Ouais, super. Sauf qu'un humain, on lui en montre une et il sait ce que c'est un chat. Donc il n'y a pas d'intelligence. Ce sont juste des machines qui font un travail qui, avant, était limité à l'intelligence humaine. Effectivement, c'est important. Donc, il ne faut pas négliger cette importance. Mais ce n'est pas de l'intelligence. Et derrière, voilà, ce côté robot est vraiment là pour faire peur. Donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de moteur de rédaction, qui ramène ces choses à leur juste valeur. C'est juste une machine qui va produire des textes, mais qui n'a pas d'intelligence.
On va maintenant ouvrir une petite séquence questions courtes, réponses courtes. Quel est votre robot préféré ?
Comment s'appelle ce film ? Ah, c'est un dessin Wall-E. Animé. Wall-E.
Donc c'est Wall-E.
C'est Wall-E.
Quel est l'algorithme qui vous fait vous arracher les cheveux ?
Clairement l'algorithme de Google. Bon, je pourrais rajouter celui de Facebook aussi. C'est-à-dire ce sont des algorithmes qui ont un impact sur nos vies, notre conception de la société et nos démocraties, et dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants, et qui peuvent avoir des impacts, et qui ont des impacts, on l'a vu, très graves.
Avez-vous chez vous une enceinte connectée ?
Non.
Quel est votre assistant personnel préféré ?
Moi-même.
Par quel géant du web, quel GAFA, aimeriez-vous que C-Labs soit racheté ?
Si j'avais le choix, aucun. J'ai très peu d'affinité avec les GAFA. Voilà.
C'est entendu. La dernière levée de fonds de C-Labs, c'était en 2018, 2 millions d'euros. Où en êtes-vous maintenant, financièrement, C-Labs ?
Alors c'était la dernière et c'était la première aussi, donc nous n'avions pas fait de levée de fonds avant. Grâce à cette levée de fonds, on a réussi à développer de nouveaux secteurs en particulier. Nous sommes maintenant la référence dans l'immobilier, avec, comme je le disais, pratiquement 700 agences immobilières qui nous utilisent. Nous avons développé un certain nombre de moteurs pré-configuré pour les médias, donc on parle des élections, mais on parle aussi de la météo, d'agenda culturel, de sport, et nous avons largement amélioré notre capacité à délivrer des contenus en masse. Là, typiquement, on avait un client en 2015, là on a 15 médias à qui il faut délivrer des contenus pour 35 000 communes, ça demande une infrastructure bien plus complexe. Donc, on a développé beaucoup de choses. On arrive maintenant, justement, au bout de 2 ans, sur un état où ce qu'on vise maintenant, c'est l'équilibre financier. Donc là, on est en train de travailler beaucoup sur notre équilibre financier avant de viser une nouvelle levée de fonds.
Justement, les partenaires que vous pourriez viser, quels seraient-ils ?
Pour une levée de fonds ?
Pour une nouvelle levée de fonds.
On va peut-être pas...
Non, parce que là, les précédents, donc c'était BNP Paribas, c'était un fonds d'investissement derrière West France, et le troisième...
Westweb Valley. Voilà. Donc effectivement, sur cette première levée, on a levé des fonds avec Westweb Valley, qui est un fonds breton, avec West France et avec BNP Paribas. Pour un prochain tour, qui est toujours en réflexion, on verra.
Parlons maintenant de la question des données, de l'accessibilité aux données. J'imagine que c'est capital pour une entreprise comme la vôtre.
Oui, effectivement, les données sont fondamentales pour nos moteurs de rédaction qui produisent des textes à partir de ces données. Et on utilise énormément les données ouvertes, donc l'open data, en particulier ce qu'on trouve sur DataGov, c'est une mine d'informations qui nous permet de produire des contenus qui décrivent la vie locale dans toute la France. Effectivement, on aimerait avoir plus de données, des données touristiques, il en existe, il y a Data Tourisme qui a fait un gros effort là-dessus, mais il manque quand même des données un peu plus qui donnent un peu plus envie d'aller voir le lieu, des données sur l'e-commerce qui ne sont pas toujours d'excellente qualité, enfin, effectivement, les données ouvertes, c'est quelque chose de fondamental pour nous, mais pour beaucoup d'autres, et j'espère que ça va se développer.
Et vous arrive-t-il justement de batailler pour obtenir des chiffres, de solliciter certaines administrations, par exemple, pour avoir accès à certains chiffres, ou alors vous estimez que ce n'est pas du tout l'objet de votre entreprise et que ça, c'est plutôt du ressort des journalistes ou d'autres acteurs?
Alors, on ne bataille pas parce que, effectivement, on n'a pas trop le temps de se concentrer là-dessus, mais ça nous arrive, effectivement, quand on rencontre les bonnes personnes, de leur dire, voilà, on aimerait bien avoir ce type de données. Par exemple, les données des prix de l'immobilier. Alors, c'est certainement pas grâce à nous que ça a été mis en données ouvertes, mais c'est vrai qu'on en a parlé pendant, ça fait 3 ans qu'on dit, ouais, ce serait bien qu'on ait ces données-là.
Vous faites maintenant intervenir votre solution dans le football, dans la météo, les agendas, la bourse. Y a-t-il des domaines qui, pour l'instant, sont un petit peu en des terrains incognita pour le traitement des données?
Pour pouvoir produire des contenus tels qu'on le fait, on a besoin de deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est la disponibilité des datas. Donc s'il n'y a pas de données, on ne va pas pouvoir le produire. Et est-ce qu'il est rentable de les produire par un autre moyen? Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la rentabilité du développement. Si au final, on doit produire quelques dizaines de textes, voire même 100 textes ou 150 textes, ce n'est probablement pas rentable de passer par nous. Du coup, quand on regarde, si vous parlez en termes de secteur, de domaine, de thématique, il n'y a pas de limite, on pourrait produire sur tous les secteurs, mais il faudrait qu'il y ait des données et il faudrait que ce soit rentable et que ce soit pas trop complexe. L'exemple que je donne toujours, c'est justement un exemple journalistique. On pourrait éventuellement produire une analyse d'un discours politique, sauf que on n'est pas capable de l'analyser automatiquement. Donc il faudrait prévoir un formulaire qui correspond à tout ce dont peut parler un politique, ce qui est déjà gigantesque, et il faudrait que quelqu'un le remplisse après avoir entendu le discours politique et l'avoir analysé lui-même ou elle-même. Ça n'a aucun sens. Du coup, ça ne sert à rien d'aller sur ce type de production, parce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose d'utilisable et de rentable.
Sur quoi essayez-vous de déployer Silabs à l'international?
Alors sur l'international, on est déjà présent en Belgique. Il y a évidemment, alors nos secteurs principaux, ce sont les médias et l'immobilier. Donc on travaille sur les médias, par exemple. Peu importe là où on est, la bourse, c'est toujours, ça se dit toujours un peu de la même façon. Mais par rapport à l'international, il y a beaucoup de choses qui se font, qui devraient se faire dans l'immobilier, mais c'est compliqué. Comme vous le savez, l'international, même en Belgique, il y a des spécificités linguistiques. Pour information, discuter avec un Québécois par rapport à l'immobilier, la description d'un bien au Québec, même si c'est du français, n'est pas du tout la même qu'en France. On va parler de 3,5 pieds et un duplex, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a des spécificités liées à la langue et aux régions dans lesquelles cette langue est déclinée. La question de la région est importante, on parle pas de la même façon, ni avec la même intention pour décrire un objet touristique quand on parle à un français, un américain ou un chinois. Ce n'est pas la même façon de le décrire, et c'est des choses dont il faut tenir compte. C'est pour ça que on ne parle pas simplement d'adapter à une langue, il faut adapter à une culture.
Avez-vous justement déjà essayé ou envisagez-vous de déployer Silabs dans une autre langue que le français?
Alors en l'occurrence, nous traitons déjà plusieurs langues. Hein. On a fait des textes dans beaucoup de langues, du français, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, de l'allemand, néerlandais, enfin on peut faire beaucoup de choses. Après, effectivement, le développement international d'une entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait de manière simple et ça demande des fonds.
Et le français, j'imagine, n'est pas forcément la langue la plus simple à manipuler non plus.
Non, clairement. Là-dessus, il y a... Alors, on va pas dire qu'il y a des langues plus difficiles que d'autres. Il y a des langues plus difficiles que d'autres par rapport à certaines tâches. Clairement, le finnois, le turc sont des langues absolument horrible à traiter de manière automatiquement et à produire. Si on prend le chinois, c'est une langue qui est complexe à analyser, qui est beaucoup plus simple à générer parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc effectivement, ça dépend des langues. Le français n'est pas la plus simple, non, c'est pas la plus complexe non plus.
Donc, revenons sur les élections municipales en France des deux prochains dimanches. Qu'est-ce que vous considérez comme une réussite au lendemain de ces deux tours, pour vous, pour Syllabs, techniquement parlant? L'objectif, c'est qu'il y ait zéro erreur, comme en 2015, avec Le Monde?
Alors clairement, notre objectif unique, c'est on délivre dans les temps, sans erreur, à l'objectif. Donc après, derrière, il faut s'en donner les moyens. C'est ce qu'on a fait. On a une équipe, on a quasiment la moitié de l'entreprise qui travaille sur ce thème-là. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attache à délivrer le maximum de qualité. On verra.
Et en volumétrie, ça représentera combien de, je ne sais pas, centaines de milliers d'articles?
Oui, c'est ça. Bon, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais on va clairement dépasser les 200 000.
Et qui n'auront rien à voir entre un site et un autre, ou alors il y a quand même de grosses similitudes?
Alors, il y a forcément des similitudes parce qu'on est sur un même thème. C'est un peu compliqué de décrire le pourcentage de telle liste candidate de manière très différente d'un site à un autre. Et quand on a 15 médias, effectivement, on va pas avoir des milliards de façons de le faire sur 35 000 communes à chaque fois. Donc non, il y aura des similitudes, c'est normal. Mais si c'était un humain qui le faisait, il y aurait encore plus de similitudes. Là-dessus, il y a des tests qui montrent que si vous demandez à un humain de décrire le même produit plusieurs fois et de faire des centaines de productions pour un même produit, il y a une répétition de façon de dire qui est gigantesque, parce que c'est compliqué en fait d'imaginer des textes différents à chaque fois.
On aurait envie de voir un sondage justement sur un de ces médias-là qui demanderait à ses internautes, ses visiteurs, de savoir s'ils sont en mesure de dire si le contenu de la page sur laquelle ils sont a été généré par un humain ou par une machine.
Alors on a fait des tests, et il y a des tests qui ont été faits par d'autres dans le monde. C'est compliqué de savoir que ça a été rédigé par une machine. On a fait des tests auprès de vos confrères où effectivement ils n'ont pas vu lequel était fait par une machine, lequel était fait par un humain, parce que on part du principe que la machine va faire quelque chose de forcément moins bien. Or la machine, qui a du temps, parce qu'on a mis beaucoup de temps à la configurer, peut faire mieux qu'un humain qui doit faire ça hyper vite et qui a d'autres choses à penser et qu'en fait ça l'ennuie de faire ça. Donc c'est pas une question d'intelligence, encore une fois, c'est une question d'application et du temps qu'on passe à configurer le moteur par rapport au temps que va passer un humain à faire ce texte qu'il a pas envie de faire.
Voyez-vous quelque chose à ajouter ?
Merci de m'avoir invité.
Merci à vous, Claude Deloupi, PDG et cofondateur de Syllabs. Plus d'infos donc sur syllabs.fr. À
Merci.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Ce dimanche 15 mars, c'est la journée mondiale pour le climat. La mondoblogueuse camerounaise Salma Amador, journaliste de profession, suit de près les jeunes qui s'engagent pour l'environnement. Elle est partie à la rencontre d'une cinquantaine d'entre eux au Cameroun qui ont fait le choix de profiter de leurs vacances pour sauver la planète.
Dites encore que ce sont les choses des bobos. Les jeunes Camerounais s'engagent pour protéger l'environnement. Ils ne sont pas aussi inconscients qu'on veut le faire croire dans ce pays. Je vous explique. C'est au détour d'un Mapane que j'ai suivi un petit groupe de 50 jeunes qui s'activent à faire de la récupération au quartier Cité Verte. Curieux, non? Des jeunes âgés de 18 à 25 ans pour la plupart. Un peu de curiosité me fait découvrir que c'est une initiative des Brasseries du Cameroun pour son projet Plastique Récup Holiday pour les occuper durant les vacances à sauver notre planète. Vous me regardez encore, ce sont les choses des bobos. Eh bien non, quand on parle de sauver la planète au Cameroun, les conférences telles que la COP21 semblent être pour les habitants simplement une rencontre entre riches pour se faire voir. Pourtant, le changement climatique est bel et bien réel de nos jours. La preuve, il fait de plus en plus chaud ici à Yaoundé et il n'est pas rare pour le cas de cette ville de ne plus savoir à quelle saison nous sommes. En plus, il peut pleuvoir à Eligédjoa et pas à Lonkak. C'est la sorcellerie, nous diront certains pessimistes qui voient en toute chose un peu de mystère. Non! Les inondations à la poste centrale, ce n'est pas de la sorcellerie. Juste toutes ces actions que nous posons au quotidien quand nous jetons les bouteilles vides ou nos ordures ménagères à même le sol ou dans les caniveaux dès qu'il pleut. Normal! que les brasseries récupèrent ces bouteilles vu que c'est eux qui les fabriquent, diront d'autres. Eh bien non encore. Cette société nous vend ces boissons et leur contenant, mais ce que nous en faisons après n'est pas de leur responsabilité. Chaque citoyen doit pouvoir jeter les ordures et sa bouteille en plastique au bon endroit pour éviter qu'elle ne se retrouve n'importe où. À Yaoundé et à Douala, c'est une centaine de jeunes qui va se déployer. Les jeunes recevront des diplômes et pourront poursuivre ces actions dans leurs quartiers respectifs en compagnie de leurs camarades. Vive la récup!
On vient d'entendre Salma Amador qui suivait des jeunes Camerounais engagés pour la préservation de l'environnement. Son billet est à retrouver sur leblogdesalma.com et sur mondoblog.org. J'ajoute qu'on se félicite d'avoir reçu plus de 300 candidatures au concours Mondoblog 2020. On est en ce moment à pied d'œuvre pour lire toutes ces contributions. Et sur mondoblog.org, on vous en dit un peu plus sur le profil des participants. On diffusera fin mars, début avril, la liste tant attendu des lauréats qui deviendront donc à leur tour des blogueurs francophones de RFI. C'est la fin de cette émission. Simon De Creuse était comme chaque semaine à la réalisation. Louise Guibert a supervisé Mondoblog Audio. Steven Jambot était au micro. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Je recevrai Yves Bigot, le PDG de TV5 Monde, en pleine semaine de la langue française et de la francophonie, pour parler de TV5 Monde Plus, une plateforme mondiale de contenu francophone qui doit être lancé en septembre. D'ici le week-end prochain, retrouvez en podcast l'Atelier des médias.